Salut Luc.
Salut.
As-tu entendu griller?
Hey, c'est quelque chose, hein? C'est vrai, moi, c'est, j'aime ça à chaque fois qu'il passe. Puis il parle vite, Pierre, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais on l'écouterait longtemps.
Là. Il est fascinant.
Vraiment.
Écoute, il est fascinant pour les choses vivantes, il est fascinant pour les feuilles mortes, imagine.
Imagine-toi, les feuilles mortes. Hey, venez souper, il faut que je vous parle des feuilles mortes, imagine-toi.
C'est ta soirée. On parle tout de suite de ton souper? Tu voulais nous parler de ton souper de mardi.
Ben écoute, je me suis ramassé mardi avec des gars avec qui je faisais du ski il y a 1000 ans, à peu près.
Quand tu faisais du ski?
Oui. Puis, peux-tu te dire qu'ils ont mieux réussi que moi financièrement? Oh my God!
Sérieux?
C'était quelque chose. Fait que j'étais assis à côté d'un consultant en habitation, en immobilier. Puis là, il m'a donné les insides.
OK, qu'est-ce que
tu lui as dit? J'ai dit, bon, ben, tu sais, moi, j'ai jamais acheté parce que j'avais pas le temps. Je pensais à autre chose. J'avais loué facilement un beau logement. Fait que j'avais pas besoin d'acheter. Je me dis, ça, au prix que ça coûte maintenant, là, faudrait-tu que j'essaye quand même? Il me dit, ouais, il dit, va falloir que t'avales la couleuvre parce que ça va continuer de monter. Je dis, comment ça va continuer de monter? Quand j'étudiais en économie, on nous racontait qu'il y avait un ratio entre la capacité de payer des gens puis le logement, tu sais, que c'était X fois les revenus annuels, un loyer ou une maison à acheter, mettons 8 à 10 fois les revenus moyens, peut-être plus, mais il y avait un lien entre les deux. Si dans une ville, tu gagnes moins d'argent que dans l'autre ville, bien, les logements étaient moins chers. Mmh, mmh. Il dit, plus maintenant. Puis là, il m'a raconté que plusieurs de ses clients internationaux calculent même plus les coûts des bâtiments ou les revenus des bâtiments. Ils achètent ici parce que c'est encore achetable, point final. Puis il dit, eux se disent, de toute manière, je ne prends pas de risque parce qu'il y en a des dizaines, voire des centaines d'investisseurs qui agissent de la même manière. Fait que si leur logement, leur immeuble commercial ou résidentiel reste vide ou en partie vide, pas grave, va se faire acheter par un autre. Il y a tellement de capitaux en circulation dans la planète. Eux, ce qu'ils regardent, c'est-tu moins cher qu'ailleurs? Et Montréal, c'est moins cher qu'ailleurs. Tu sais, évidemment, au Pakistan, c'est encore moins cher, là, mais dans les villes qui ont une qualité de vie, sont en santé, pas de violence, l'air est respirable, le métro marche, Montréal est dans les tops.
Si je comprends bien, là, pour des investisseurs internationaux, là, asiatiques, américains, européens, qui ont de l'argent à investir, les frontières, c'est pas un problème.
Exactement.
Eux, ils se disent pas, hey, ça va être beaucoup trop cher par mois. Ils achètent. Pour eux autres, c'est un bon rendement. Et sans le savoir, et en s'en fichant, ils font augmenter la valeur du marché artificiellement ici.
Absolument. Parce qu'à un moment donné, là-dedans, il y en a qui vont vouloir valoriser leur investissement. Puis ils vont dire, écoute, on va rénover. Puis on va. Puis, tu sais, des fois, on voyait des photos de blocs, de rues entières là, qui étaient achetées par des investisseurs. Puis, tu sais, on est dans le parc extension, la rue L'Acadie, pas des beaux blocs, là, mais ils se disent, c'est combien à peu près moyen? Tu sais, ils regardent pas le prix des logements un par un. Là. En moyenne, c'est combien? C'est 700 $, parfait. Ils achètent le bloc, ils achètent les blocs, puis ils savent qu'un jour, ils vont l'augmenter. C'est-tu maintenant, tout de suite, plus tard, ou un jour?
Ils ont les moyens de rester assis sur l'investissement.
Ben, c'est ça. Ça s'appelle la financiarisation du marché de l'habitation. La raison pour laquelle je te parle de
explique aux gens, financiarisation, c'est quoi, là, un peu plus en
détail.
Que
la financiarisation, c'est que c'est plus des noms, c'est plus des personnes qui achètent, c'est des entreprises. Puis les entreprises, souvent, c'est une coquille, puis derrière cette coquille-là, il y a plusieurs investisseurs qui viennent de fonds de retraite, qui viennent de fonds privés. Hmm. Ils se mettent ensemble, puis ils vont faire des achats, 60 millions, 80 millions, 100 millions, et on leur garantit un retour sur leur investissement. Mais ça, justement, il y a plusieurs éléments là-dedans qui font qu'ils n'agissent pas comme une famille, ils n'agissent pas comme un individu. Premièrement, ils sont capables d'attendre longtemps pour avoir le bon locataire. Ça veut dire qu'ils peuvent laisser le logement vide ou ils peuvent en acheter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'un coup et puis augmenter les prix d'un coup de l'ensemble ou rénover tous ces logements-là ensemble. Donc, ils ont des comportements qui sont différents des acheteurs particuliers. D'ailleurs, au Danemark, ils viennent de passer une loi contre la financiarisation, c'est-à-dire tu ne peux plus acheter de l'immobilier, je ne sais pas c'est jusqu'à combien de logements, là, si tu n'as pas un nom. Donc, c'est un nom qu'il faut qu'ils achètent, ce n'est plus une compagnie de numéro.
Ça, mais à Berlin aussi, hein, j'ai lu là-dessus, là, tu veux me parler de ça, il y a eu un référendum à Berlin, c'est un référendum consultatif là, qui n'a pas force de loi, mais c'est passé à Berlin comme une balle, les gens veulent que tout ce qui est en haut de 10 logements soit nationalisé justement pour sortir la financiarisation de l'équation.
240 000 logements qu'ils veulent nationaliser. Parce que Berlin, écoute, ça ressemble à Montréal. Tu sais, Berlin, ça ressemble beaucoup plus à Montréal que Paris ressemble à Montréal, par exemple. C'est une ville de locataires, 85% de locataires. Puis c'est une ville où les logements étaient pas chers parce qu'il y avait, le gros, gros réservoir de logements qui était Berlin-Est. Et donc, là-bas, avec des logements qui coûtaient une bouchée de pain. Et donc, Berlin, il y a 10 ans, il y a 12 ans, là, c'est une ville pas chère. Puis là, les investisseurs du monde entier ont fait ce que mon chum dit qu'ils ont fait. Ils sont arrivés là, puis ils ont acheté sans regarder. Ils ont acheté des dizaines de milliers de logements, des centaines de milliers de logements. Et on commence à augmenter les prix. Mais comme il y a 85 % des gens qui sont locataires, là, les gens ont commencé à s'inquiéter, la population a commencé à s'inquiéter. Puis là, il y a eu, la ville a décidé de mettre une augmentation limite sur le prix des logements. Et il y a eu du jour au lendemain. La Cour suprême a rendu invalide cette décision-là. Il y a eu 10 000 personnes dans la rue. Ça, c'était au printemps. Après ça, il y a eu un autre 10 000 personnes dans la rue. Là, la Cour suprême n'a toujours pas bougé. Là, il y a eu 20 000 personnes dans la rue, puis ils ont dit à la ville, bon, il n'y a pas d'autre solution, il faut exproprier les propriétaires. C'est pas rien, ça. La décision, la proposition a fait le tour du monde. Je peux te dire qu'à Wall Street, ils regardaient ça avec des gros yeux. Et...
Non, écoute, c'est une mesure. Écoute, oui, je pèse mes mots, là. C'est un peu communiste.
Totalement. D'une ville qui ne l'est pas du tout, puisqu'au contraire, elle a aboli le communisme. Mmh, hein? Mmh. Donc, c'est toute une patente. Et les gros, gros propriétaires ont commencé à avoir peur, puis la ville a commencé à accepter d'acheter des logements. Ils en ont acheté 14 000. Mais pour eux, c'est une pinotte, là. Ils ont dit 14 000, il n'y a rien là. Mais tu compares ça avec ce qui se passe ici, ben, c'est quand même majeur. Là. Parce que ici, c'est bruit de criquet, là. L'indifférence totale, magistrale de M. Legault sur la question du logement. Tu as vu que dans son discours, aucune mention sur la crise du logement ou sur la crise de l'accès à la propriété. Il a parlé de tout, là. Il a parlé longtemps, 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 il a parlé de tout. Mais il a méticuleusement évité ce sujet-là. Mais moi, je pense que ça va y revenir d'en face. Parce que là, il veut engager 13 000 intervenantes en garderie. Calcule ça. 13 000 intervenantes en garderie, 22 de l'heure. Si tu consacres 33 % à ton logement, ça a l'air net. Tu peux te payer un logement de 900. Mais ils sont où, les logements à 900? À Montréal?
Eh bien, ils sont loin.
Il n'y en a pas. Fait que là, tes 13 000 intervenantes en garderie, il va falloir qu'ils viennent en avion chaque matin. Donc là, il va falloir qu'ils s'intéressent au logement, une fois pour toutes.
Luc, on peut dire que c'est un enjeu de jeunes, disons, là, mais c'est de moins en moins un enjeu de jeunes, parce que moi, ce que j'entends, c'est que tu as de plus en plus de parents qui doivent aider leurs jeunes de 30 ans, là, 25, 30 ans, qui veulent entrer dans le marché, parce que sinon, ils ne vont pas rentrer dans le marché.
Absolument, absolument. Puis ça commence à ressembler à des situations qu'il y a à Vancouver, à Toronto, etc., et en Europe, à Zurich, dans des villes comme ça, où c'est des hypothèques sur deux générations. Fait que tu peux éviter d'en parler, tu peux faire semblant que tu as oublié, fais ton discours, parle de d'autres choses, ça va revenir. C'est une question qui va revenir. Ce n'est plus simplement les quartiers centraux de Montréal, c'est même plus juste Montréal.
Mais non, on
c'est
en entend parler. Ben, voilà. Saint-Hyacinthe, un peu partout, là, on a de la misère à trouver des logements. Écoute, Luc, je te souhaite une excellente fin de semaine. Puis, écoute, désespère pas, peut-être que tu vas réussir à acheter à Montréal.
Ah, moi, un cabanon est bien isolé, là. M'a taillé une fenêtre dans le fond, tout va bien aller.
Un lac à Bessic avec...
simplicité volontaire, hein?
Avec de l'aide minérale tout autour.
Ouais, c'est ça.
Merci, Luc.
Salut, bye. Salut, tout le monde.
17h24.